Vous souhaitez investir en bourse ? Saxo Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, casse ses prix sur les actions, ETF et produits dérivés. Saxo Bank, votre partenaire pour investir en bourse. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
La vie invente et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secrets de dirigeants. Elle est l'une des rares avocates connues et reconnues. Elle est même considérée comme l'une des meilleures pénalistes de France. Elle a commencé par faire du droit pénal dur, celui des parloirs à la prison, des crimes, braquages, viols ou infanticides. Elle a défendu et continue de le faire des anonymes et aussi quelques puissants, des hommes d'affaires médiatiques comme Jean-Marie Messier, des hommes politiques dont l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et plus récemment les stars de la télévision Patrick Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot.
Jacqueline Lafont-Haïc et je suis avocate.
Pendant plus de 30 ans, elle a travaillé aux côtés de son époux, maître Pierre Haïc, une référence dans le monde judiciaire, un ténor comme on les imagine, spécialiste du droit pénal et des affaires politico-financières. Mais depuis 2020, il est malade et c'est donc sans lui qu'elle a assuré la défense de Nicolas Sarkozy en novembre 2020.
Début aujourd'hui du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes. Maître Jacqueline Lafont défendra l'ancien président avec à ses côtés deux autres ténors du barreau, maître Hervé Temim et maître Thierry Herzog. Le procès durera jusqu'au 10 décembre.
Disons qu'un dossier de cette envergure, d'abord il n'y en a quand même pas beaucoup, puisque fort heureusement ce n'est pas tous les jours qu'on défend un ancien président de la République. C'est un moment très particulier, voilà. On est encore totalement sorti de ces successions de confinement. Pour moi, pour des raisons personnelles, c'est un moment très particulier et c'est un moment très fort. Et puis aussi un honneur pour moi de défendre un ancien président de la République. Mais ça n'est pas facile non plus.
Un ancien président de la République, c'est un client très à part ou au fond, quand la technique est la même, ça change pas grand-chose pour vous.
Écoutez, l'essentiel. Pour moi, reste le même, c'est-à-dire que la technique, l'implication, la défense, l'envie de défendre le mieux possible, le socle est identique. Ensuite, oui, il y a une pression supplémentaire, il y a une responsabilité supplémentaire. Et je pense pouvoir dire qu'il y a une difficulté supplémentaire. Je pense que ce n'est pas simple de défendre, en l'occurrence d'un président de la République, mais que ce soit des personnes qui sont considérées comme des personnes puissantes. La réalité aujourd'hui, c'est que, et fort heureusement d'ailleurs, il y a un moment où elles étaient peut-être trop protégées, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que parfois, non seulement elles ne le sont pas du tout, et parfois elles pâtissent effectivement de leur statut et de leur fonction passée.
Donc ça, c'est une façon différente du coup de défendre son client.
C'est une façon différente, c'est une façon plus difficile, ce sont des batailles dans lesquelles on a le sentiment qu'il faut faire encore plus, et puis il faut être subtil, délicat, il faut faire attention parce que il y a les médias, il y a l'opinion publique, il y a l'exploitation qui en est faite, il y a les instrumentalisations, et puis il y a des magistrats qui ont parfois peur peut-être de donner le sentiment qu'ils seraient trop bienveillants, et la réalité est quand même tout à fait l'inverse.
Jusqu'à cette affaire, vous avez très souvent travaillé en binôme avec votre époux. Vous avez travaillé presque 30 ans, c'est ça, en couple?
Oui, même plus que ça.
Même plus que ça. C'est quoi le secret pour réussir à travailler bien ensemble en couple?
Écoutez, on m'a posé souvent cette question. Je pense que le secret, c'est de conserver sa part de liberté dans ce travail commun d'équipe. Et le secret, c'est probablement une vision assez commune de la défense, de ce que c'est que la défense pénale. Et puis, oui, une façon de s'impliquer à la fois très différentes. On avait des façons d'aborder des dossiers extrêmement différentes, sûrement très complémentaires.
Vous avez des personnalités très différentes.
Oui, je
même
pense.
Si vous avez le droit en commun.
Je suis peut-être assez mal placée pour analyser ça. Oui, on était très différents, mais moi, je pense que les différences dans la vie, dans un couple, dans une famille, c'est quelque chose de riche, quoi, d'enrichissant. Et on s'est probablement, oui, nourri de ces différences sur le plan professionnel, notamment.
Pourquoi est-ce que vous êtes devenue avocate pénaliste ? Je crois que votre papa n'était pas très chaud au départ.
Mon père aurait rêvé que sa fille soit magistrate. Mon père était officier de marine dans une première vie. Ensuite, il a été dirigeant d'une entreprise dans une seconde vie. Mais il a d'abord et avant tout été une personne qui a servi l'État, la marine nationale, qui avait une vision importante de cela, qui était lui-même le fils d'un officier. Et pour lui, être avocate pénaliste, a fortiori pour une femme, hein, quand j'ai prêté serment, c'était quelque chose d'assez rare de voir des femmes pénalistes, c'était une profession qui l'effrayait un peu. Et voilà, si j'avais voulu lui faire plaisir, j'aurais été magistrate, ça, il aurait adoré. Mais en définitive, il a été mon plus grand supporter. Il était passionné par ses procès. De temps en temps, il venait me voir. Parfois, je lui faisais relire. Il rédigeait remarquablement bien, mon père. Et pour moi, la rédaction, c'est quelque chose de fondamental. De temps en temps, je fatigue mes collaborateurs parce que parfois je suis peut-être un peu pointilleuse, mais je pense que c'est très important. Donc en définitive, il a non seulement accepté mon choix très vite, mais plus que ça, il m'a accompagnée, il m'a encouragée. Il était très intéressé par la justice pénale et par la défense pénale.
C'est quand même un milieu particulier. Les pénalistes, on défend des criminels, des gens qui ont tué d'autres gens, qui ont certaines fois violé. Il peut y avoir des incestes, il peut y avoir de la pédophilie. C'est vraiment une matière dure. Vous en faites peut-être un petit peu moins. Comment est-ce qu'on les vit, ces dossiers-là ?
D'abord, pour faire du pénal, il faut que ce soit un choix. Je pense que c'est un métier qui peut être absolument détestable et épouvantable si vous n'avez pas choisi. Et évidemment, vous êtes confronté à ces situations dramatiques, violentes, terrifiantes que vous évoquez. Mais il ne faut jamais oublier qu'une personne qui est confrontée à l'institution judiciaire, elle s'inscrit dans cette fameuse balance qui illustre et qui symbolise ce que c'est que la justice. Donc, elle a en face d'elle toute une machine, avec une accusation, avec des avocats de partie civile, avec des juges qui instruisent quand même plutôt, on va le dire, un peu plus souvent à charge qu'à décharge, même si le code devrait avoir pour but de poser un équilibre plus fort entre le fait d'instruire à charge et à décharge. En fait, on est là et on est bien peu de choses par rapport à l'institution judiciaire. On nous présente souvent comme ayant du pouvoir, mais la réalité, c'est que le pouvoir, il est du côté des juges, et que nous, notre rôle, c'est de défendre justement par rapport à cette machine qu'est l'institution judiciaire, des personnes qui ont le droit d'être défendues, quels que soient les actes qui leur sont reprochés.
Personnellement, humainement, ça laisse pas indifférent.
Non, 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 ça laisse pas du tout indifférent. C'est parfois, il y a des dossiers violents, ils le sont pour les avocats que nous sommes, évidemment. Hein. Et puis, encore une fois, ce qui est très important, parce que je trouve que aujourd'hui, c'est presque dommage, mais il faut, on a à le rappeler, de défendre un homme à qui l'on reproche des faits graves, violents, quels qu'ils soient. Quand on défend un assassin, on ne défend pas l'assassinat. Quand on défend un homme accusé de viol, on ne défend pas le viol, quoi. On défend un homme dans un état de droit dans lequel, effectivement, les terroristes sont défendus. Et ils sont dans un pays de droit qui est la France. Pays dans lequel, effectivement, vous devez être défendu. Et c'est l'honneur de cette défense qui est parfois très, très difficile. Moi, mon exercice professionnel a évolué considérablement, mais je trouve que j'ai énormément appris dans ces procès. Je trouve que ce sont des procès extrêmement difficiles et en même temps extrêmement enrichissants. Et je pense que la défense que j'applique aujourd'hui à des hommes d'affaires, à des hommes politiques, à des grands patrons d'entreprise, elle est totalement nourrie, renforcée par ces expériences-là. Pour moi, d'être avocat pénaliste, c'est un métier.
Est-ce que vous avez des limites ? Est-ce qu'il y a des dossiers que vous ne voudriez jamais défendre ? des affaires que vous refusez en disant « là, c'est trop ».
Il m'est arrivé de refuser des dossiers. Je crois quand même que pour moi, bon, aujourd'hui, les années ont passé, il y a aussi un temps pour tout, il y a une évolution du cabinet qui fait qu'on a moins de temps pour se consacrer à tout. Il faut aussi faire un peu des choix dans la vie et dans ce métier aussi.
Et puis on a le droit de choisir des choses qui vous plaisent plus que d'autres.
Oui, et puis on aura exactement, voilà. Mon critère a toujours été celui de la liberté du système de défense. Si je suis libre de défendre un homme ou une femme comme je le souhaite, ou si j'arrive à prendre cette liberté-là, ce qui n'est pas toujours facile, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme procès que je refuserais. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne ferai plus. Oui, je pense que
Est-ce que c'était trop dur ?
Oui, parce que c'est dur. Enfin, oui. Vous savez, on ne sort pas indemne hein, de procès où on voit défiler la souffrance, la douleur des mères, des pères, des sœurs, des frères, où on expose des photos de violence. Tout ça, ça marque. Et moi, je pense que dans la vie, il faut faire les choses quand on a la force de les faire, quand on a l'envie de les faire. Et voilà, il y a peut-être à un moment donné des choix qui se font parce que vous vous sentez meilleur, plus adapté à certains dossiers. Et il faut aller là où on est bon, là où on pense que l'on est bon en tout cas.
Est-ce que le pénal, ça rend pas un peu misanthrope ?
Écoutez, non, je ne pense pas. Non, franchement, je pense même que c'est l'inverse. Voilà, je pense que c'est en réalité exactement l'inverse.
Ça vous donne l'occasion de rencontrer des gens différents, peut-être de ceux que vous auriez croisés dans la vie en général.
Oui.
Des expériences, des humanités.
Si vous voulez, ça vous permet toujours d'accéder à une part de l'être humain qui résiste, quoi, qui reste un peu humaine. Je pense qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'humanité pour exercer ce métier. En revanche, le jour où ça vous arrive, oui, il faut en changer très vite, très très vite. Mais pour moi, je dirais que c'est précisément l'inverse.
Est-ce que vous écrivez vos plaidoiries ? Est-ce que vous les rédigez ? Vous les écrivez ? Vous les construisez dans votre esprit ? Et ensuite, au moment, dans l'action, dans l'ambiance, en fonction de ce que les uns les autres disent, il faut quand même que ce soit, j'imagine, vivant, mouvant, en fonction des circonstances. Comment vous faites ?
Ça dépend des dossiers, d'abord. Des dossiers, de l'importance. L'importance en termes de volume, de complexité, de technicité du dossier. Il y a des dossiers pour lesquels je n'écris rien du tout. Je travaille toujours en amont. Je pense toujours, évidemment, à l'axe de défense, à la façon dont je vais défendre la personne qui m'a demandé de la défendre, aux arguments que je vais mettre en avant. J'essaie, le plus important pour moi, c'est d'avoir la bonne stratégie de défense. C'est pas toujours simple. Ensuite, oui, il y a des dossiers dans lesquels j'écris un certain nombre de choses. Mais en réalité, je ne lis pas. Je lis parfois, je me reporte à mes notes. Il y a des extraits que je cite. Il y a un canevas que je conserve. Quand on plaide 2 heures, 3 heures, il y a un moment où vous avez besoin effectivement d'avoir
de se raccrocher
oui,
à quelque
de
chose.
Raccrocher à des listes de sujets, d'idées, de documents que vous voulez évoquer. J'essaie de ne pas être trop enfermée dans un cadre trop écrit, même si de temps en temps, oui, je pense le jour, la nuit, je me réveille, j'écris sur un petit carnet des idées qui me traversent la tête. J'aime bien quand même essayer de penser à une façon d'introduire la défense. Donc, il y a des choses que j'écris, mais je serais bien en peine de vous donner une plaidoirie écrite de A à Z. Ou alors, j'ai pu le faire, mais en réalité, ce n'est pas celle que j'ai finalement déclamé devant le tribunal ou devant la cour.
La voix, c'est un outil extrêmement important. Les tribunaux sont assez grands. Les hommes ont naturellement plus... Ils occupent plus l'espace. Comment on fait quand on est une femme ?
Il est certain, il est évident que, alors à part quelques exceptions, que les hommes et les femmes n'ont pas la même voix, n'ont pas une voix qui porte exactement de la même manière. Et je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est d'être soi-même quand on plaide. Il y a de formidables plaideurs que je respecte, que j'admire même, hein, qui, si vous voulez, à partir du moment où ils se lèvent pour plaider, transforment leur voix et sont dans un exercice qui est très éloigné de ce qu'ils sont habituellement.
Oui, ce sont presque des acteurs.
Voilà.
Avec des effets de tranche.
De toute façon, pour chacun d'entre nous, probablement une part de ça. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être soi-même. Et c'est d'avoir le sentiment, ça ne marche pas à tous les coups, hein, d'être écouté, et on l'espère entendu, et donc ça peut passer par plein de choses, quoi. Il y a des voix de femmes qui, si vous voulez, peuvent utiliser justement la douceur, la fermeté, d'autres registres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui prennent des cours de diction, qui s'entraînent, etc., d'avocats ou d'avocates, hein. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais eu de conseils en communication, plaidoirie, art oratoire, etc. Je pense que la plaidoirie, c'est quelque chose qui doit vous habiter, quoi. Et qu'à partir du moment où elle vous habite, vous trouvez le moyen de la dire, je l'espère en tout cas, hein, de façon convaincante.
La robe vous aide à entrer dans cet état-là?
Je dirais oui. Pourtant, je, dans l'absolu, je peux penser que ce genre de... Voilà, d'attributs...
Oui, c'est juste un morceau de tissu noir et blanc.
Est être un peu ridicule, mais la réalité, c'est que il m'est arrivé une fois dans ma vie de plaider aux assises sans robe, parce que c'était un jour de canicule. On était à la vieille cour d'assises de Paris, du palais de justice ici, là, à côté de mon cabinet. Je ne sais plus quel était le degré de chaleur qui avait été atteint, mais c'était vraiment... absolument suffocant et insupportable. Et donc, j'ai plaidé sans robe et je trouve que la robe, ça introduit une distance. Pour moi, le procès pénal, c'est vraiment une espèce de médiation, quoi. C'est-à-dire qu'on passe par le procès pour arriver à une vérité qui est une vérité judiciaire et la robe en fait partie. Et on est, quand on est derrière cette robe et qu'on porte cette robe, on n'est pas derrière, mais on la porte en tout cas, eh bien, on est dans ce processus judiciaire qui fait la justice, quoi. Donc, bizarrement, parce que quand j'y réfléchis, je trouve que ça peut peut-être paraître ridicule de porter une robe aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est bien.
Elle protège un peu?
Elle protège sûrement aussi, un peu. Elle protège, elle vous oblige. Nos robes, c'est quand même des compagnons de route, quoi. Et sans robe, quand on plaide, ça fait vraiment très étrange. Ouais.
Vous avez les mêmes robes depuis le début?
Non. Non, non, non. Malheureusement, j'en ai perdu, ça s'abîme.
Et on peut emprunter la robe d'un collègue?
Oui, bien sûr. On peut en louer. On peut en louer au palais. Enfin. Alors là, j'ai ma robe, mais elle a maintenant encore déjà quelques années, mais ça n'est pas la robe de ma prestation de serment, malheureusement. Bon. Celle-ci, elle n'existe plus où elle est. Elle a disparu.
Vos dossiers, vous les suivez pendant des années. Certaines procédures sont très longues. On arrive à s'en détacher ou à un moment donné, ça devient une part de sa vie et une part de son histoire personnelle comme le reste?
Je pense que la distance est une des qualités absolument nécessaires. Qualité de la défense, c'est-à-dire que on doit être dans la distance. Quand on est pénaliste, comme je le disais tout à l'heure, on défend des hommes ou des femmes qui ont commis des actes parfois atroces, on défend des hommes ou des femmes à qui il est reproché d'avoir commis des infractions, parfois des délits, parfois des crimes, on défend des personnes qui ont besoin d'être conseillées et qui étaient sur une mauvaise, même dans le pénal financier, hein, que j'exerce plus largement aujourd'hui. Donc la distance, c'est ce regard extérieur, et je pense que c'est absolument nécessaire. Donc on ne devrait pas se laisser envahir par les dossiers, par les affaires, mais parfois c'est difficile. Enfin, il y a des dossiers qui vous touchent, quoi. Il y a des dossiers qui vous emmènent. Il y a des dossiers qui sont des tranches de vie quand vous défendez un homme pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, quand vous défendez des justiciables qui ont eu plusieurs dossiers, et ce sont des tranches de vie. Donc, voilà, moi, par exemple, je me souviens très bien de ce que je plaidais quand j'ai eu mon premier fils, mon second, on va dire, puisque c'était le dernier, mais je me souviens très bien de où j'étais le jour où mon fils aîné révisait son bac français parce que j'étais pas à côté de lui et que c'était un truc difficile pour moi à vivre. Donc, tout ça est très...
Intimement mêlé.
Que c'est vrai pour n'importe quelle femme qui travaille. Mmh. Voilà. Donc, intimement mêlé, vie privée, vie professionnelle. Oui, forcément, ce sont à la fois deux choses distinctes et ça forme un tout. C'est ma vie. C'est la vie des femmes, des hommes aussi, d'ailleurs.
Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a un rapport à la justice dans la société qui évolue. Il y a les réseaux sociaux qui sont une forme de tribunal médiatique. Il y a ce qu'on peut entendre à la télévision. Il y a les jugements moraux qui parfois n'ont rien à voir avec ce qui est légal ou pas. Il y a aussi, dans certains cas, on a vu des parents qui tentent de faire la justice eux-mêmes. Est-ce que vous voyez cette justice un peu se déliter ou un peu avoir moins sa place auprès de la société française ?
Je pense que il y a ces dernières années, encore une fois, des évolutions favorables, des combats nécessaires, des dénonciations de certains comportements qui étaient indispensables. Je pense que tout ça était utile, mais je pense que oui, ça s'accompagne quand même d'une déviation, je dirais, de la justice, d'un délaissement aussi de la justice à laquelle on ne ferait plus confiance et qui justifierait que finalement on se passe de cette médiation-là dont je parle. Pour moi, c'est un mot fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice sans code de procédure pénale, sans code pénal, il n'y a pas de justice sans juge, même si je les combats souvent, hein, mais c'est quand même la chose la moins dramatique que nous ayons trouvée. Hein. Elle est imparfaite, la justice, moi je la combats tous les jours, parce que quand je défends des hommes et des femmes, j'essaie de faire toujours en sorte que tout soit plus juste, soit plus conforme à la règle, etc. Mais je pense que de se priver de ces règles-là, de ce procès, est quelque chose de dangereux et d'inquiétant. Et cette justice qui est rendue d'une façon, je dirais, que je qualifierais presque de populiste, hein, dans les médias, sur des simples accusations... Elle est forcément inquiétante, oui.
Est-ce que vous avez eu le sentiment que parfois on vous a choisi, par exemple, dans des affaires de viol ou de pédophilie, parce que vous étiez une femme ?
Je pense que oui, ça a existé, ça existe peut-être encore, mais je pense que c'est... La réalité, c'est que ça a peut-être eu un sens au tout début de l'explosion, on va dire, de ces affaires. Mais aujourd'hui, ça n'en a plus. Je pense que, évidemment, les femmes doivent avoir une place équivalente à celle des hommes. C'est tellement une évidence que c'est même presque ridicule de dire ça. Mais pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir un bon avocat ou une bonne avocate. Voilà. Et je pense que d'être une femme, peut-être que parfois, ça permet d'écrire un petit peu plus facilement des mécanismes qui peuvent être ceux connus par les femmes quand elles ont une relation avec un homme, qui peut être parfois compliquée, qui peut être parfois dominatrice, qui peut parfois être ambiguë, qui peut parfois... Donc, il y a peut-être une forme de vécu personnel qui fait que vous avez peut-être un peu plus de sensibilité pour décrire ça, mais je pense que... Enfin, la qualité première, pour moi, n'est jamais d'être un homme ou d'être une femme, quoi.
C'est d'être bon.
Exactement.
Pourtant, il y a 57% de femmes qui sont avocates. Ça représente aussi les deux tiers des entrées dans la profession. Et pourtant, on parle beaucoup des ténors. Il n'y a pas de mot pour les femmes. Parfois, on dit ténora. Il y a des ténors. Il y a moins de ténora. Et elles sont moins bien payées. On les trouve plus comme collaboratrices et moins comme vraiment avocats sur le devant de la scène. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Vous êtes à la tête d'un cabinet, vous avez une dizaine de personnes, vous me disiez avant qu'on commence l'interview. Comment est-ce qu'on fait évoluer les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe différemment ?
On est déjà en pleine évolution. Moi, qui est vrai, je vous donnais la réaction de mon père lorsque je lui ai annoncé que je voulais être avocate, et en plus avocate pénaliste. Parce que je n'ai été avocate que pour être avocate pénaliste. À l'époque, effectivement, les femmes pénalistes, elles se comptaient sur les doigts d'une main et encore. C'était un milieu extrêmement masculin, quasi exclusivement masculin, et c'était une voie, hein, la voie du pénal, qui était quasiment fermée aux femmes, enfin en tout cas qu'elles n'empruntaient pas, qu'elles n'avaient peut-être pas d'ailleurs, ou qu'elles ne s'autorisaient pas à vouloir emprunter et fréquenter. Bon, mais les choses ont quand même considérablement évolué. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a un livre qui a été écrit notamment là-dessus par une avocate qui s'appelle Julia Nikowski avec Lisa Vignoli, justement sur ce qu'elles appellent les ténoras, en réponse aux ténors.
Il y a aussi un documentaire qui est très joli.
Et il y a eu un très joli documentaire qui a été fait par Lisa Vignoli. Donc Julia Nikowski. Donc si vous voulez. Toujours L2. Donc, les choses ont quand même considérablement évolué. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il n'y a pas encore autant que des hommes au pénal. Mais les choses ont quand même changé. Et ce qui fait plaisir, hein, et moi, ce qui me touche toujours beaucoup, ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que, j'ai des amis qui me disent, mais en fait, il y a des jeunes avocates aujourd'hui qui peuvent avoir des modèles féminins.
Ça, c'est important, le rôle modèle.
Voilà. Oui. voilà, qui peuvent avoir des modèles féminins. Et les modèles féminins existent aujourd'hui. Et donc, ça, oui, c'est bien, ça a changé. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Oui, je crois.
C'est une fierté quand il y a une jeune consoeur qui vient vous voir en vous disant « Vous m'avez donné envie ».
Oui, c'est une fierté, c'est une émotion et c'est presque une surprise.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Comment ça se passe, les parloirs? Alors, c'est un moment difficile, je crois.
Oui, enfin, la présence, c'est toujours un moment difficile. C'est drôle parce que si vraiment j'ai une image, moi, qui me reste encore gravée de façon incroyablement précise dans la mémoire, c'est le premier jour où je suis entrée en prison. J'avais 23 ans, j'étais rentrée à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, je n'avais pas encore prêté serment, j'étais stagiaire, je voulais absolument faire du pénal, j'étais dans un cabinet d'affaires. Vous voyez comme quoi aujourd'hui j'ai fait un peu la synthèse, parce que j'ai du pénal des affaires, donc je fais un peu les deux, et je m'étais débrouillée pour absolument accompagner un maître de stage dans le seul dossier pénal du cabinet à l'époque, et je suis rentrée donc dans cette maison d'arrêt de Bois-d'Arcy avec ces espèces de miradors, des corbeaux noirs, et j'ai trouvé que c'était d'une violence assez inouïe. Et en réalité, ce qui est fou, c'est que je trouve que on ne s'y habitue jamais totalement, et que d'aller voir quelqu'un au parloir, d'aller voir quelqu'un en prison, c'est toujours quelque chose de violent. Alors on va nous répondre que la prison c'est pas fait pour être un hôtel 4 étoiles, etc. Mais je crois qu'il faut rassurer tout le monde, c'est pas très très loin d'être le cas. Et d'ailleurs, on a une contrôleuse des prisons qui lutte de façon Dominique Simoneau très très importante, efficace et nécessaire parce que effectivement l'état des prisons est quand même assez désastreux. Je pense que ça ne peut aider personne. Voilà, et ça ne peut surtout pas aider les hommes et les femmes qui sont confrontés à l'enfermement à sortir en étant meilleurs. C'est ce qu'on attend aussi un peu de la peine. Et je pense que l'état des prisons est un obstacle à cela.
Simone Veil, ça avait été un de ses premiers, un de ses dossiers, je crois.
C'est vrai. C'est vrai. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est un problème ancien, récurrent, et des choses sont faites. Je pense que on peut dire que des choses ont été faites, des progrès, mais ils sont encore largement à accomplir. Et quand on va voir quelqu'un en prison, c'est un moment à la fois dur et un moment intense et important parce qu'on est vraiment le lien entre l'enfermement, la prison et l'extérieur. On est le lien entre tout ça. On est une espèce de petite boule de d'espoir qui débarquons là. On vient leur parler, on vient les aider, on vient essayer de préparer leur défense. Donc ce sont des moments importants et des moments toujours difficile. Moi, c'est drôle, c'est vraiment quelque chose que je trouve. Quand je sors de prison, je sais pas, j'ai presque envie d'aller me doucher, quoi, parce que c'est un moment lourd et dur.
Nous sommes dans votre cabinet, ici. Oui. Vous êtes boulevard Saint-Michel, oui. À 5 minutes de chez vous, un peu moins, je crois.
Pas donné mon adresse.
Non, et à 5 minutes à peu près de l'ancien palais de justice.
Exact.
C'est le bon résumé de votre existence.
Oui. Et puis, si on peut rajouter, parce que si on veut résumer mon existence, ça serait plus long que ça. C'était à 5 minutes de l'école où étaient mes enfants. Voilà. Et là, on a fait le tour un peu de mon existence. Ouais.
C'est ça le secret pour arriver à avoir tout. Vous vouliez tout avoir dans la vie. Vous avez dit une fois, vous avez dit ça.
Tout avoir.
Donc, tout à 5 minutes, c'est le bon résumé.
En tout cas, j'espère avoir fait tout. Pas trop mal, voilà. Aussi bien que possible, en tout cas. C'est-à-dire que je ne voulais pas que le fait que je travaillais beaucoup soit un poids et un sacrifice pour mes enfants. J'avais envie de tout faire en même temps. Mais en réalité, je suis très, très banale pour ça. Enfin, je sais que, 90% des femmes, il y a encore celles qui ne travaillent pas, mais font ça. On jongle les unes et les autres. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que les hommes jonglent aussi un peu, et un peu plus qu'avant.
Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne dans la vie?
Il y a beaucoup de chansons, j'adore chanter. aujourd'hui, je suis un peu moins dans ma voiture, mais il y a beaucoup de musique qui m'accompagne. La musique, elle était très présente chez moi. Nous sommes 3 filles, 3 sœurs, et ma mère voulait que l'une soit violoniste, l'autre altiste, et la dernière qui était moi, violoncelliste. Voilà. Ah. Donc, on a toutes les trois fait de la musique. On a écouté beaucoup de musique classique. On allait beaucoup à l'opéra quand on était petite. C'était le rêve de ma mère d'avoir trois filles qui jouaient toutes les trois. Voilà. D'ailleurs, j'ai une sœur qui est toujours altiste et qui joue dans un petit orchestre. Et j'en ai une autre qui a fait du violon longtemps. On était dans des orchestres de jeunes, etc. Et moi, j'ai arrêté un peu plus vite qu'elle, il faut dire, le violoncelle. Mais la musique est quelque chose qui a été très important dans ma vie. Donc, il y en a beaucoup qui m'accompagnent, souvent.
Merci à Baptiste Dupin pour la mise en onde de cet épisode et à l'équipe de Choc, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Mouedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Merci à Laurence Gontier pour les titres Actu au début et à Maître Sylvie Relais pour son aide et ses conseils. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.